Je suis embarqué sur le chemin de la croissance personnelle à 19 ans en lisant Le guerrier pacifique de Dan Millman. Du moins, je suis embarqué sur le chemin de façon consciente à cet âge-là. Avec ce podcast, je veux partager avec toi ce qui m'a fait du bien et qui apaise mon esprit, ainsi que les rituels et les routines qui m'aident à me grounder au quotidien. Au fil des conversations, je découvre d'autres gens qui, comme moi, consacrent une grosse partie de leur vie à donner du bien-être et de l'apaisement à ceux qui le cherchent. Ce podcast se veut un voyage à l'intérieur vers le bien-être. Merci d'être là avec moi. Alors, cette journée fatidique, j'étais dans la cour chez mes parents. C'était une belle journée d'été, je ne me rappelle plus quel mois, j'avais 19 ans. Je buvais encore de l'alcool dans ce temps-là, alors j'avais une caisse de 6. J'ai commencé à boire, je pense, vers 10-11 heures le matin. Et je lisais un livre de Dan Millman qui s'appelait « Le guerrier pacifique ». Puis, j'étais tellement fasciné par la lecture de ce livre-là, c'est la première fois que j'ai été mis en contact avec quelque chose de dit croissance personnelle, du moins consciemment. Puis, j'ai fini ma caisse de 6, puis j'ai fini le livre la même journée. J'ai dû lire de 10 heures le matin à 6 heures le soir. Puis, j'ai eu un éclair, un éclat, un changement de perspective complet où est-ce que je m'apercevais que je pouvais changer ma pensée. Je m'apercevais que je pouvais diriger ma pensée puis la diriger vers l'intérieur. Puis je pourrais dire que c'est mon premier voyage à l'intérieur de moi-même parce que ça m'a tellement éveillé des rappels plus que des... C'est plus comme si je retournais en contact avec des choses que je savais, mais que j'avais oubliées. C'est un peu comme si je me retrouvais dans un état dans lequel j'avais oublié que je pouvais être. Aujourd'hui, en regardant ça avec du recul, j'ai l'impression que je retournais avec un regard nouveau sur la vie. En anglais, on appelle ça « the beginner's mind », le cerveau du débutant ou l'esprit du débutant. Parce que le cerveau puis l'esprit, c'est deux choses. Ça, j'ai appris ça avec le temps. Et ça m'a donné une fenêtre ouverte sur ma psyché d'une manière que j'avais pas réfléchi dessus depuis longtemps ou jamais même. Je sais que ma mère, quand j'étais très jeune, depuis que je me rappelle, m'a toujours parlé beaucoup des choses qui l'intéressaient par rapport avec la spiritualité, avec la naturopathie, que ça soit avec les élixirs de, je le dis en anglais, St. John's Wort, mais aussi avec les ARE, qui était le centre de recherche de Edgar Cayce. Edgar Cayce, qui était le prophète qui rêve, the sleeping prophet, celui qui se mettait en transe et qui disait pouvoir accéder aux archives akashiques. Et à travers ça, ma mère, elle a appris beaucoup sur la spiritualité. Wayne Dyer, Deepak Chopra. C'est toute ma mère qui m'a introduit à ça quand j'étais jeune, même si aujourd'hui, on lui demanderait et elle nierait et que c'est au fait moi qui l'introduis, elle, à la spiritualité aujourd'hui, mais c'est faux. C'est elle qui m'a introduit à ça. Même un livre que je me rappelle tendrement qui s'appelle « Le Tao of Pooh », le Winnie the Pooh, l'ourson là, de Christopher Robin. Et il y a un livre sur le taoïsme qui est écrit en utilisant Winnie the Pooh comme point de référence parce que sa vie à lui, Winnie the Pooh, elle n'est pas baudré de questionnements et d'opinions. C'est vraiment juste qu'est-ce qui se passe, c'est ce que c'est. Puis à quelle heure qu'on mange, quand j'ai faim. C'est quand est-ce qu'on va aller se coucher, c'est quand on est fatigué. Puis le questionnement et l'opinion n'est pas prédominante dans la vie de Winnie the Pooh. Et ma mère, elle m'a toujours appelé Joey Pooh. Et j'ai l'impression d'avoir eu une connexion avec le Tao de Pooh de toute ma vie à cause de ça. 19 ans, donc je lis Le guerrier pacifique de Dan Millman. Je me plonge dans toutes sortes de lectures qui ont rapport avec la croissance personnelle. Et un peu plus tard dans ma vie, je dirais, je ne me rappelle plus à quel âge que j'ai découvert ou que j'ai été mis en contact la première fois avec l'hypnose. Et c'est pour m'aider avec la cigarette que j'ai utilisé des affirmations. Je pense que c'est là la première fois que j'ai vraiment tenté de changer quelque chose en dedans de moi qui ne me plaisait pas. Et c'était mes habitudes de cigarette, ma consommation de cigarette. Et j'utilisais les affirmations positives pour pouvoir transformer ça. C'était très difficile. Au fait, j'avais un livre noir que je dédiais à cette maîtresse qui est la cigarette. Et j'ai tellement écrit des poèmes, des chansons, des dessins. Je l'haïssais, je l'adorais. J'avais toutes les émotions qui passaient. Et il m'est arrivé à un moment donné où est-ce que j'ai perdu ce livre noir. Je le trouvais plus. Je l'avais toujours avec moi. Au fait, c'était comme mon inspiration qui passait par là. Puis, il y a beaucoup d'inspiration artistique qui passe par le désespoir et la mélancolie et la tristesse et l'euphorie, certainement. Mais il y a les deux côtés. Et certainement que les creux de vagues sont aussi creux que les raz de marée peuvent l'être. Et je descendais vraiment en bas des fois. Je ne veux pas dire que j'étais dépressif nécessairement, mais il y avait définitivement des moments dépressifs dans ma vie en rapport avec la cigarette surtout et ma consommation d'alcool. Bref, quand j'ai perdu ce livre noir de la cigarette, je me suis promis que j'allais maintenant changer. Je ne pouvais plus faire à semblant. Ça faisait 4 ans, je crois, que j'écrivais à l'intérieur de ce livre noir-là. Et mon problème n'était pas de ne pas être capable d'arrêter. Mon problème était que je continuais toujours à recommencer. Alors, je me suis promis à ce moment-là de me prendre en main. Je suis allé faire des patchs. Et la médecin traitante, d'ailleurs, à la clinique, quand j'ai eu ma prescription de patch, c'était une Vietnamienne, je crois. Et elle était à veille d'écrire la prescription. Quand je lui ai demandé, elle se lève les yeux. Elle me regarde droit dans les yeux avec le stylo toujours posé sur sa feuille de prescription. Avant d'écrire, et elle me regarde intensément, un petit silence plane. Et elle me regarde et elle dit, « Vous savez, monsieur, arrêter de fumer, c'est pas dans la patch, c'est dans la tête. » Elle se baisse les yeux, elle continue d'écrire la prescription. Ça m'avait frappé, là. Ça m'avait tellement frappé. Puis je pense que c'est à ce moment-là que j'ai su que je pouvais changer d'idée, que je pouvais choisir de changer d'idée, changer d'habitude. Et je remercie, je suis rempli de gratitude pour cette petite madame vietnamienne qui m'a amené un peu sur le chemin de l'hypnose. J'avance dans ma vie quelques années où est-ce que là, j'ai envie de reprendre contrôle sur ma consommation d'alcool. J'ai appris qu'un ami de la famille du côté, un ancien voisin à mon épouse à Trois-Rivières, qui fait de l'hypnose. Puis il avait aidé Gaël, je crois, pour le sommeil. Et il y avait mention qu'il pouvait m'aider aussi avec ma consommation d'alcool. Alors, j'ai fait une, peut-être deux séances avec lui, puis je me rappelle distinctement de ces séances encore, en tout cas de certaines parties du moins. Et je me rappelle qu'il m'avait donné des options, des choix, et que je pouvais choisir d'aller d'un côté plutôt que de l'autre côté de la plage. Puis il y avait un côté de la plage qui était noir, sombre, il y avait beaucoup de malheur, de désespoir et de douleur. Et la lumière, elle avait de la difficulté à voyager sur ce côté-là de la plage. Et moi, je descendais des marches qui séparaient les deux côtés de plage, et l'autre côté était joyeux, illuminé, très, très léger. On entendait des rires, il y avait du vent, il y avait de la clarté. Et que quand je descendais, il me détaillait très bien chaque côté. Et que quand je suis arrivé en bas des marches, il m'offrait l'opportunité de faire un choix. Et que j'ai fait le choix de la lumière, de la légèreté, de la santé. Et que j'ancrais en moi ces choix-là. Puis que j'avais le droit de faire ce choix régulièrement dans ma vie. Et d'ouvrir cette option plutôt que de toujours tourner vers le côté sombre. Et ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit d'aller du côté sombre, c'est une option, ça existe. Et je suis tout à fait libre de prendre ce choix-là si j'ai envie. Et ça a été ma première fois où est-ce que j'ai été exposé consciemment à l'hypnose. Et ça m'a fasciné, c'est resté en moi. Et j'ai fait le choix conscient de plus en plus souvent de pas boire, sauf que ça a duré le temps que ça a duré et je suis retombé. Par contre, ça m'a ouvert la porte. Ça m'a ouvert la porte à comprendre qu'il y avait une possibilité d'apprendre sur la psyché humaine, sur le choix, sur les habitudes inconscientes, sur les dépendances. Et au fait, je me suis inscrit à la même école que lui, où il a appris. C'était une école, le FPHQ, École de formation professionnelle en hypnose du Québec, sur la rue Masson à Montréal. Très bonne école. Ils font autant de la sophrologie, je crois, que l'hypnose ericksonienne avec des scripts. Je ne sais plus aujourd'hui s'ils sont encore comme ça. Ils enseignent aussi la PNL, programmation neuro-linguistique, qui utilise le langage pour changer les perceptions. J'ai suivi quelques formations, 3 formations à cette école-là. Ça m'a aidé, m'a introduit, en tout cas, au monde de l'hypnose. Je me sentais pas très confortable avec les scripts, par contre. Et j'ai trouvé une autre école, le Dolphino Media, qui m'a... Il y avait une introduction à l'hypnose qui était en conflit avec un de mes cours. Non, c'est pas vrai. C'est pas l'introduction à l'hypnose. C'était un cours que je voulais assister pour mon fils Mathias. Au fait, c'était un cours d'introduction et d'explication sur les mécanismes du TDA, trouble déficitaire de l'attention, auquel je voulais assister avec Mathias parce que ça donnait des options à comprendre le trouble, le syndrome, et aussi comment contrer et pallier à ce syndrome-là de façon naturelle. Et il y avait un conflit d'horaire où est-ce qu'il y avait ce cours-là en même temps qu'un cours de l'EFPHQ, et j'ai fait le choix d'aller à Dolphino, qui s'est avéré être l'école que j'ai choisie pour une formation professionnelle plus poussée en hypnose. J'ai fait 500 heures d'études à cette école-là. Et à l'intérieur de cette école-là, de cette formation-là, ben là, j'ai vraiment voyagé à l'intérieur de moi. Là, j'ai vraiment exploré toutes sortes de noirceurs parce que tout en faisant la formation, en apprenant les techniques, ben, on se pratique sur nous-mêmes. Donc, il y a toujours une partie théorique sur la technique ou sur la méthode ou sur l'enseignement. Ensuite, il y a une démonstration. Il y a quelqu'un qui est en avant de la classe pour démontrer une technique quelconque. Et ensuite, on se met en dyade, deux par deux ou trois par trois à l'occasion, où est-ce qu'on va mettre en pratique ce qu'on vient d'apprendre. Et ainsi, on apprenait de 3 façons. On apprenait de façon intellectuelle, visuelle, auditive. Ensuite, on voyait quelqu'un recevoir la méthode. Ensuite, on donnait la méthode à quelqu'un et on recevait la méthode. Alors, c'était très, très intégratif comme enseignement. J'ai beaucoup aimé cette forme-là. C'est pour ça que j'ai choisi cette école-là. Je suis très empathique. Je suis très kinesthésique. Je suis quelqu'un qui reçoit quand il fait beaucoup. Même si intellectuellement, je suis capable de comprendre rapidement, visuellement, il y a une composante kinesthésique en moi que je n'avais pas explorée vraiment beaucoup, mais que cette école-là m'aidait à explorer. Et à travers toutes les formations, bien, j'ai voyagé en dedans de moi. J'ai exploré les traumas, j'ai exploré les blessures, j'ai exploré aussi les objectifs que j'avais. Puis, je pouvais approfondir ce que Yves avait commencé, qui est l'hypnothérapeute qui m'avait fait la pratique de cessation d'alcool. Et bref, à cette époque-là, j'avais toujours pas arrêté de boire en passant. Ça a été quand même un voyage profond en moi que d'explorer les raisons de ma dépendance à l'alcool. Et aujourd'hui, j'appelle ça peut-être plus un comportement dépendant. J'ai lu récemment quelque chose qui m'a vraiment frappé, qui disait essentiellement que la dépendance n'est que l'effet secondaire d'un problème plus profond. Et que le problème profond, la blessure profonde, c'est toujours un trauma de l'enfance. Et le trauma en tant que tel, c'est toujours du moins régulièrement, souvent, je dirais pas toujours, là, mais c'est régulièrement un manque de connexion avec soi-même et une exclusion d'un clan quelconque. C'est comme si si on ramène ça à l'essentiel, si on ramène ça là, à l'instinct de survie de l'enfant. Donc, on est un enfant, on est jeune, on a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et il y a quelque chose qui arrive, il y a une situation dans laquelle on sent qu'on est exclu il y a une situation dans laquelle on sent qu'on est rejeté. Et que pour être accepté, on sent qu'on doit changer, altérer notre comportement. Parce que on n'est pas très bon pour savoir c'est quoi les comportements sociaux à avoir, les acceptables, dans ce clan-là, dans ce groupe-là. Par contre, on est très empathique comme enfant. Hein? On a un sixième sens quand on est jeune, à savoir si les gens sont heureux ou non, s'ils sont colériques, s'ils sont apathiques, s'ils peuvent nous aider à rester en vie. Ça, c'est vraiment une question de survie, ça. C'est un instinct de survie. Puis c'est très développé chez l'enfant parce qu'on ne comprend pas encore les codes sociaux. Alors, moi, ce que j'aime dire souvent, c'est imagine qu'à l'âge que tu as, imagine comment tu es en ce moment, tu te fais kidnapper par une race extraterrestre. Puis cette race extraterrestre, elle est géante. Toi, tu arrives là à peine aux genoux. Puis, tu comprends pas un mot de ce qu'ils disent. Puis, tu as vraiment beaucoup de difficultés à reconnaître les codes sociaux de cette race, de cette culture-là. Tu reconnais rien. Essentiellement, tu es complètement dépourvu parce qu'il n'y a rien qui est connaissable. Tout est nouveau tout le temps. Partout où est-ce qu'on t'emmène, chaque fois qu'on t'expose à quelque chose d'autre, c'est nouveau pour toi et tu n'as pas de point de référence. Puis en plus, tu ne comprends pas la langue. Par contre, tu es capable de reconnaître très bien quand tes kidnappeurs, les personnes ou les personnes qui s'occupent de toi, là, les aliens qui s'occupent de toi, quand ils sont contents ou quand ils sont mécontents. Parce que ça, ils te le font savoir. Parce que là, possiblement, ils vont t'empêcher de dormir quand ils sont mécontents. Ils ne te nourriront pas. Ils vont peut-être même t'enfermer quelque part, derrière des barreaux. Mais quand ils sont contents, là, ils te cajolent, ils s'occupent de toi, ils te nourrissent, ils te changent, ils te lavent, tout va bien. Puis, c'est curieux, là, mais c'est ça la vie d'un enfant. C'est ça la vie d'un enfant de pendant longtemps. Ou est-ce que l'enfant va reconnaître quand tu te sens bien ou quand tu te sens pas bien. Puis quand tu te sens pas bien, il sait que ça va pas bien pour lui ou elle. Parce que si ta mère, elle a un postpartum, si ta mère est occupée avec d'autres enfants, si ta mère elle-même lutte avec une dépendance quelconque puis elle t'ignore, bien, toi, tu sens pas qu'on s'occupe bien de toi, puis il y a comme du trauma qui s'installe, ou est-ce qu'il y a de l'abandon, puis il y a une peur de mourir, il y a une peur de ne pas être capable de survivre à la journée. Et on apprend à changer notre comportement à cause de ça. Puis tu sais, je parle de dépendance, puis de trauma profond, puis de dépression, mais c'est même pas obligé d'être aussi pire que ça. Ça peut être juste un peu d'anxiété, de « je suis pas capable de payer le compte d'hydro ce mois-ci », puis que en cherchant des solutions pour pallier au manque financier, la mère ou le père ou les deux, mais ils ne portent pas attention à l'enfant pendant ce temps-là. Puis là, l'enfant vient puis il veut montrer le dessin qu'il a fait, mais on n'a pas le temps pour ces niaiseries-là parce que là, il faut qu'on fasse assez d'argent pour aller changer des bouteilles pour pouvoir acheter du lait, tu sais. Puis c'est pas de la faute à personne, là. C'est même pas pour mettre du blâme sur qui que ce soit. On a tous fait du mieux qu'on pouvait avec ce qu'on avait à chaque moment de notre vie. Puis moi, c'est ce que j'ai appris aussi, c'est qu'à chaque moment... On a l'impression des fois que les gens... Il y a une expression qui dit « il y a le cordon du cœur qui traîne dans la marde ». Je sais pas si tu as déjà entendu ça, mais c'est une expression essentiellement qui veut dire des gens qui sont lâches, des gens qui veulent même pas faire l'effort, ou du moins de l'extérieur, on a l'impression là, que c'est une paresse incroyable. On pourrait penser au Québec, des gens sur le bien-être social, on a une image face à ça, des gens sur le chômage, des gens qui sont en dépression. Mais t'as juste à te relever, t'as juste besoin de recommencer, change la façon que tu perçois les choses. Mais c'est mal comprendre c'est quoi ces états d'être-là, parce que la personne, moi-même, là, chaque fois que j'ai pas réussi à faire mieux, c'est parce que je savais pas faire mieux. Puis quand je me donnais à la cigarette, à l'alcool, à d'autres comportements dépendants, c'est parce que je savais pas faire mieux. C'était le mieux que j'avais, c'était ça. Si j'avais eu mieux, crois-moi, je l'aurais fait mieux. Puis on a de la difficulté à concevoir des fois quand les gens sont à terre. Il y a encore un gros, gros stigma dans notre société sur la maladie mentale. Puis c'est vraiment de ça que je veux parler quand on voyage à l'intérieur. C'est de notre propre mental, notre humanité qui est mis à rude épreuve dans notre société aujourd'hui. Là, va travailler, paye tes impôts, ferme ta gueule. Puis on va taxer la taxe parce que les gouvernements n'ont pas assez d'argent pour envoyer d'autres personnes en guerre et protéger les puits de pétrole. parce que ultimement, c'est rien que de ça qu'on parle tout le temps. C'est protection du pétrole en rapport avec le capitalisme, puis la pharmacologie, puis on rend les gens malades. Je partirai pas en conspiration ici, là, mais bref. Pas facile d'être humain aujourd'hui, tu sais. On travaille fort pour des fois un maigre revenu, puis juste à regarder c'est quoi le revenu moyen au Québec aujourd'hui, là, on est à peine aux 40 000. Puis vivre sur 40 000 $ par année brut, c'est pas fantastique, là. J'ai l'impression que ton appartement est pas très gros. Puis ton char, mais il est peut-être magané. Mais c'est pas facile d'être un humain aujourd'hui. Puis je sais pas si ça l'a déjà été facile, mais ça nous remplit de trauma, ça, être un humain. Puis quand on oublie le côté humain de la vie, ça devient essoufflant, tu sais. Puis le voyage à l'intérieur de soi-même, là, c'est le voyage à l'intérieur de tes valeurs, tes convictions, tes croyances à toi. Puis quand tu agis contraire à tes valeurs, tes convictions, tes croyances, c'est là que la maladie s'installe. Puis le fait est que à l'école, dans notre société, nos amis, notre famille, la culture en général, c'est rare qu'on va nous encourager à explorer c'est quoi nos valeurs, c'est quoi nos croyances, nos convictions. Puis avec ce podcast, c'est ce que je cherche à faire, c'est de retrouver les valeurs profondes de la générosité, de l'humilité, la vulnérabilité, le don de soi, l'amélioration continue, le développement personnel, la foi qui est peut-être une force organisatrice dans l'univers, je ne sais pas c'est quoi, mais on regarde si on regarde des fleurs, la géométrie sacrée cachée dans les pistils de fleurs. Si on regarde un coquillage, comment que ça répond à des équations mathématiques. Même le corps humain, on est capable de retrouver mathématiquement, à l'intérieur de notre propre corps, le corps se répète. Puis ce que je veux dire par là, c'est qu'on est capable de mesurer différentes parties du corps à l'intérieur du corps. Notre pied, quand on met notre talon du pied sur le coude, la pointe de notre plus gros orteil va arrêter à notre poignet. Si on est capable de... Si on met notre pouce à l'intérieur de notre paume de la main puis on referme les quatre doigts par-dessus, on dit que c'est la grosseur de notre cœur. Et il y a des trucs comme ça qui se répètent partout dans notre corps. Si on étire nos deux bras pendant qu'on est debout puis on fait un T, puis on étire les doigts, puis on mesurerait d'un doigt du majeur à l'autre majeur, ça serait notre grandeur. Puis ça se répète un peu partout dans l'univers, dans l'univers observable du moins. On est capable de retrouver des calculs mathématiques dans plein de choses mélangées avec du chaos. Puis c'est ça qui est fantastique, c'est qu'il y a du chaos à l'intérieur de ça. Et à l'intérieur du chaos, il y a de l'organisation aussi. Puis à l'intérieur de nous, je pense que c'est la même chose. Ou est-ce que, en tout cas moi-même, j'ai trouvé énormément de chaos en dedans de moi. Et pour pallier au chaos, mais j'organise des choses, des rituels, des routines, des habitudes. Puis quand on a des blessures, quand on a mal, on n'aime pas ça avoir mal. Puis on trouve des façons d'arrêter d'avoir mal. Mais des fois, comment on trouve cette façon pour arrêter d'avoir mal, c'est pas toujours sain. Personnellement, moi j'ai trouvé une noirceur en dedans de moi, j'ai trouvé une blessure, un trauma. Où est-ce que... Puis, c'est pas de ta faute, maman. Mais je sentais... Moi, je suis très empathique. Puis, je ressens les émotions des gens. Puis, ma mère, elle a eu un grand trauma dans sa vie. Elle a été forcée, contrainte à abandonner sa fille à la naissance, qu'elle a eu à l'âge de 19 ans, je crois. Et ça l'a façonné sa vie. On s'entend, là. Elle a été contrainte de le faire. Elle voulait pas. Et j'ai senti... Moi, quand je suis né, depuis ma tendre enfance, là, j'ai toujours été le... drinking camarade à ma mère, donc son partenaire de boisson, mais de thé, on s'entend. Là. Même si peut-être elle me donnait des gorgées de bière des fois, là, mais ça je pense que c'est un peu tout le monde. Bref, j'ai toujours été près de ma mère, puis elle me gardait près d'elle aussi parce que j'étais le sensible, j'étais le délicat, j'étais l'intellectuel, le créatif. Et je ne sais pas quand, mais j'ai senti à un moment donné que c'était mon travail, ma responsabilité, d'aider ma mère à être heureuse. Et j'avais beaucoup de difficultés à l'aider à être heureuse parce que, ben, je le savais pas à mon âge jeune que le bonheur vient de l'intérieur, ça vient pas de l'extérieur. Et je ne savais pas que moi, en tant que jeune enfant, je n'arriverais pas à créer le bonheur chez ma mère. Mais je faisais du mieux que je pouvais et j'arrivais à créer des moments joyeux avec ma mère. Puis ça, ça me faisait du bien. Et quand je voyais que ma mère, malgré moi, était quand même triste, ça me touchait profondément. Je me rappelle que je me sentais désemparé. Et ce désir de m'améliorer, ce désir d'apprendre sur la psyché humaine et d'aider les gens à passer à travers leurs difficultés, je pense que ça naît de ça. Ça naît d'un trauma d'enfance où je sentais que je n'étais pas assez pour rendre, pour aider ma mère à être heureuse ou du moins pallier à sa souffrance. Et c'est à l'intérieur de ça que, puis à travers chacun de nos traumas, au fait, c'est notre salut, parce que c'est dans la recherche pour aider ma mère où est-ce que j'ai découvert toutes sortes de façons pour être heureux. Ça a été mon voyage à l'intérieur, ça. Puis oui, à un moment donné, je me sentais pas bien, puis oui, quand je sens que je suis pas assez, mais j'ai de l'anxiété qui se développe. Puis quand j'ai de l'anxiété qui se développe, anciennement, moins aujourd'hui, mais avant, j'allais tout de suite vers l'alcool. Puis là, ça devenait une habitude, là. Puis là, c'était même pas une question. À 15 ans, avec mes amis, là, je me rappelle distinctement d'avoir pris une caisse de 6 avec mes amis, partagée à 8 heures le matin, un peu avant même, avant d'aller à une sortie d'école. On avait 15 ans. On allait aux cascades d'eau. Puis on avait décidé ensemble, on allait boire avant. Puis on était déjà un peu ivre, mais pas mal. J'imagine 2 bières à 15 ans, quand t'as pas bu beaucoup dans ta vie, ça affecte. Puis il était 8 heures le matin dans l'autobus. On s'en allait en sortie de cascade d'eau. Puis je me rappelle, avec cette même gang-là, on allait boire dans le parc pendant qu'on faisait nos devoirs. Puis ça continuait après ça au cégep. Puis moi, j'allais à Bois de Boulogne. Puis la brasserie Bois de Boulogne, c'était comme l'autre pavillon. Il y a une session complète, je me rappelle, on avait 4-5 heures entre deux cours le vendredi ou le jeudi, puis on se retrouvait toujours là pour dîner. Puis ben, on était toujours un peu fini en sociologie en après-midi. Là. En dedans d'une heure, on était 4 qu'il fallait qu'il y ait aux toilettes en même temps. Puis ça, c'est juste la norme. Ça devient la norme, là. C'est glorifier beaucoup l'alcool dans notre société. Puis c'est difficile de passer à côté, mais moi, ça a été ma noirceur, ça. Puis ça a été difficile d'arrêter. Au mois de mai de 2020, le 20 mai 2020, ça va faire 4 ans que je suis sobre d'alcool. Puis je dis d'alcool parce que la sobriété, je pense qu'on l'a définie. Puis le cannabis existe encore dans ma vie. Le cannabis ingéré de façon responsablement et micro-dosage va m'aider beaucoup dans ma vie à non seulement me grounder, mais aussi à pallier à l'anxiété que je ressens à l'occasion, que ce soit la mienne ou celle des autres. Je suis très sensible à ce que les gens ressentent. Et au fait, micro-doser du cannabis m'a aidé à arrêter de boire. Puis être capable de reconnaître ça. Mon mal de dos, j'ai eu un accident d'auto il y a plusieurs années. J'avais 26 ans, je crois. Et j'ai une hernie discale L5 dans le dos. Puis c'est le cannabis qui m'aide à passer par-dessus ça, parce que sinon, je serais aux prises avec des opioïdes prescrits par les médecins qui fonctionnent à moitié, parce que plus qu'on en prend, plus qu'on crée des récepteurs pour l'absorber, puis moins qu'il devient efficace. Mais en micro-dosage, le cannabis, je crée moins de récepteurs, parce que je suis toujours dans le mode microdose. Et microdose, ça veut dire que je ne veux pas le sentir dans ma tête. Je veux juste que ça soit sous-perceptuel et être capable de pallier aux effets négatifs de la tension musculaire, de la douleur, et de permettre, en éliminant la tension, à mon corps de se soigner. Puis, de plus en plus de recherches, maintenant que c'est légal au Canada, ressortent les bienfaits thérapeutiques du cannabis. Et je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il faut faire attention, puis je veux pas glorifier ça non plus. Il faut vraiment savoir ce qu'on fait. Préférablement, il faut attendre d'avoir un cerveau complètement formé. Donc, de 21 jusqu'à 21 ans, il faut faire attention, parce que ça peut agir sur les récepteurs du cerveau et surtout le mode de récompense du cerveau. Il est prouvé que le plus jeune que l'on commence n'importe quelle drogue ou alcool, le plus dépendant est-ce qu'on va être, et le plus difficile est-ce que ça va être pour nous d'être développer la résilience et la productivité et être capable de s'asseoir avec des émotions difficiles, on va régulièrement être obligé d'aller vers les drogues de choix pour pouvoir s'apaiser. Et j'aimerais aussi dire que je vais faire une pause étant donné que j'arrive à la limite de mon 30 minutes d'enregistrement gratuit. Je te reviens après ceci. Pour rester sur la thématique de la douleur et comment la gérer, la méditation pour moi a été aussi principale, je dirais, dans la gestion de la douleur, au moins dans la perception de celle-ci. Parce que parfois, on va percevoir la douleur comme étant quelque chose de négatif, ça fait mal, sans pour autant y laisser la place du message qu'il a à nous enseigner. Moi, j'aime beaucoup la métaphore de la douleur étant comme un alarme de feu, dans un détecteur de feu ou de fumée dans la maison, où est-ce que l'alarme va sonner lorsqu'il y a de la fumée, lorsqu'il y a du feu, et que va exiger à ce qu'on fasse quelque chose avant de l'éteindre, pas juste éteindre l'alarme. Parce que souvent, la douleur, on a envie de l'éteindre très rapidement sans lui laisser sa place de messager. Et si on ne fait que éteindre la douleur constamment avec des drogues, prescrites ou non, on n'arrivera pas à aller au fond de l'histoire, la source de la douleur. Et c'est ce que je faisais pendant longtemps avec l'alcool, avec la drogue. J'éteignais l'alarme sans éteindre le feu. Et avec la méditation, je suis arrivé à m'asseoir avec la douleur, avec la source de mon mal, la tension, et relâcher un peu de la tension, et aussi être honnête avec les comportements que j'avais qui encourageaient cette douleur-là, que ce soit justement la consommation d'alcool qui me desséchait, qui m'empêchait d'avoir un bon sommeil, le manque d'activité physique ou de stretching ou de yoga qui me gardait dans la tension. Et même la viande et les charcuteries pouvaient avoir un effet néfaste pour mon système. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde devrait devenir végétarien, mais pour moi, la viande était une source de stress physique. Et du moment que j'ai arrêté, j'ai changé certaines de mes pratiques alimentaires, exercices, je suis arrivé à pallier à la tension qui existait dans mon corps et était à la source de mon mal. Et la méditation m'a beaucoup aidé avec ça. Et j'aimerais terminer simplement pour dire que la pleine conscience, l'honnêteté, s'asseoir avec soi-même puis arrêter de se mentir, je pense que c'est l'outil le plus nécessaire pour chacun de nous pour évoluer, pour grandir. Parce que si on n'arrive pas à avouer à soi-même où est-ce qu'on est par rapport à où est-ce qu'on veut être et qu'est-ce qu'on fait à tous les jours qui nous garde en place plutôt que de nous faire avancer, bien, on n'avancera jamais. Puis j'ai pour mon dire qu'avancer dans la vie vers nos objectifs, c'est ça le bonheur, c'est ça la satisfaction. Et d'avoir contrôle sur les choses qu'on peut contrôler dans notre vie. Et même si on a juste, selon moi, deux contrôles qu'on peut accorder dans notre vie, le premier contrôle qu'on a, c'est la perception qu'on a sur qu'est-ce qui se passe. Et le deuxième contrôle, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce qui se passe. Alors, je te remercie beaucoup d'être là. Je te remercie beaucoup, si tu aimes ce podcast, de l'aimer. Où est-ce que tu l'as trouvé? Mettre des étoiles, le partager peut-être. De me suivre pour d'autres conversations que je vais avoir avec d'autres hommes de cœur qui ont envie de partager leur chemin entre l'ombre et la lumière et comment est-ce qu'ils font aujourd'hui pour être présents dans leur propre vie. Alors, partage si tu as apprécié, aime, commente, étoile et tout ça, et suis-moi pour d'autres conversations d'hommes de cœur lors de leur passage de l'ombre à la lumière. On va voyager à l'intérieur de bien des gens. Content que tu sois là, je t'apprécie beaucoup, puis à bientôt, passe une bonne journée.